le magazine des Nations Unies.
Bonjour, agréable condition d'écoute du magazine des Nations Unies, les titres. Un briefing trimestriel du Conseil de sécurité de l'ONU, Bintou Keïta a lancé un cri d'alarme face à la catastrophe humanitaire, fruit de l'escalade de la crise dans l'est du pays. Le représentant permanent de la RDC à l'ONU a lui appelé le Conseil de sécurité à appliquer des sanctions contre le Rwanda. L'artiste musicien Innocent Baloumé s'associe au programme alimentaire mondial pour plaider en faveur de la nutrition et de l'éducation en RDC. Cette collaboration intervient au moment où le pays est confronté à une forte insécurité alimentaire ainsi qu'à la malnutrition. Et puis, cette édition du magazine des Nations Unies reçoit comme invité Dr. Stephen Laurier, directeur de l'éradication de la polio chez UNICEF à New York. Également représentant du comité stratégique de l'initiative mondiale d'éradication de la polio.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Cette page d'actualité commence à Kinshasa. Plus de 7,1 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de la RDC selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination OCHA. D'où cet appel de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. Bintou Keïta lance un cri d'alarme face à la catastrophe humanitaire liée à l'escalade de la crise du M23 au Nord Kivu, mais aussi des violences armées prolongées en Ituri ainsi qu'au Sud Kivu. La chef de la MONUSCO s'est exprimée mercredi au cours du briefing trimestriel du Conseil de sécurité où elle a présenté la situation en RDC. Elle réitère son appel pressant à l'endroit des donateurs et à la communauté internationale pour venir en aide à ces populations en détresse. Bintou Keïta.
23,4 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire, ce qui signifie qu'un Congolais sur quatre est confronté à la faim et à la malnutrition, faisant de la République démocratique du Congo le pays le plus touché par l'insécurité alimentaire. La ville et la périphérie de Goma font face à des vagues massives de déplacés internes. À la fin du mois dernier, au moins 104 sites de déplacement ont été enregistrés autour de Goma seulement, accueillant plus de 630 000 personnes. Les cas de violence basés sur le genre et d'exploitation sexuelle ont également atteint de nouveaux records. Pour le seul mois de janvier 2024, 10 400 cas de violences basées sur le genre ont été signalés à travers tout le pays, une augmentation beaucoup plus élevée que pendant les années précédentes. Cette catastrophe humanitaire exige de la communauté internationale des réponses adéquates. Pourtant, en février, le plan de réponse humanitaire du pays pour 2023 restait considérablement sous-financé, avec seulement 40% des 2,25 milliards de dollars requis jusqu'à présent.
Autre volet de l'actualité au Nord Kivu, le 25 mars, c'était lundi dernier, les Nations Unies commémorent chaque année la journée internationale de solidarité avec les membres du personnel de l'ONU détenus ou portés disparus dans le monde. Depuis la création de l'Organisation des Nations Unies en 1945, plusieurs milliers de personnes, des femmes et d'hommes œuvrant avec professionnalisme, courage et dévouement ont perdu la vie à son service. Cette journée est donc une occasion importante pour exiger justice et sécurité pour le personnel actuel et ancien de l'ONU travaillant pour le développement pacifique et durable de l'humanité. Jean-Tobie Okala, porte-parole de la MONUSCO Béni, pense que cette journée est moins connue que les autres et est une occasion pour le personnel des Nations Unies d'être solidaire avec tous les collègues de l'ONU qui sont toujours détenus ou portés disparus dans le monde.
Vous savez que nous exerçons notre métier de casque bleu dans des situations parfois extrêmes, dangereuses. Vous avez certains champs de guerre tels que l'Afghanistan, le Liban, Chypre, l'Irak, Haïti et j'en passe. Et ici à l'est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas facile non plus. Cette journée internationale de solidarité avec les membres du personnel détenu ou porté disparu nous rappelle les dangers auxquels ces femmes et ces hommes dévoués sont souvent exposés alors qu'ils s'acquittent d'une une mission essentielle, qui est celle de la promotion des idéaux inscrits dans la Charte des Nations Unies. Je vous rappelle que depuis 2021, 142 membres du personnel de l'ONU ont été détenus, dont 15 depuis le début de l'année 2022. Et au moment où je vous parle, 22 sont toujours en détention. Les membres du personnel recrutés sur le plan local sont souvent les plus exposés et des menaces inacceptables pèsent sur leur sûreté et leur sécurité. Nous demeurons donc saisis de chacune de ces affaires et exigeons en ce jour la libération immédiate de nos collègues.
Retournons à Kinshasa. Renforcer les capacités des femmes, cadre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, sur la prise en charge de la dimension genre, c'était l'objectif poursuivi par un atelier qu'a organisé la coordination nationale du PDDRCS mercredi 27 mars dernier à Kinshasa. C'est en marge de la journée internationale de la femme célébrée le 8 mars. Plusieurs modules ont été dispensés afin de renforcer l'implication de la femme dans la recherche de la paix, de la sécurité et du développement aux côtés des hommes. Jeff Opela.
Cet atelier a été ouvert par le professeur Abbé Jean Bosco Bahale Akouibale Lucheke, coordonnateur national du PDDRS. Les femmes et les hommes cadres de ces programmes ont été outillés sur la stratégie nationale, formée sur la prise en charge spécifique de la femme démobilisée et surtout renforcer la capacité sur la résolution 1325 pour contribuer à la restauration de la paix, la sécurité et à participer au développement de leurs entités. À l'issue de ces assises, Sylvie Kayomobaye, conseillère en questions administratives et financières, a lancé un appel à toutes les femmes ex-combattantes et victimes de violences sexuelles à se joindre à elles pour vivre une vie normale.
Ici déjà, le travail de PDDRCS, nous avons des actions de sensibilisation pour dire aux femmes qui sont actrices et les femmes qui sont victimes de se joindre à nous dans la communauté, de vivre leur vie normalement. C'est ça la grande lutte que nous avons.
Pour la recherche de la stabilité, l'ONU Femmes s'engage à accompagner les PDDRS à renchérir Bijou Birch, conseillère sur la consolidation de la paix dans cette agence onusienne.
L'ONU Femmes est engagée à accompagner le PDDRCS dans la recherche de la stabilité. L'ONU Femmes se tient prêt à vous soutenir. Je peux vous assurer de notre engagement à continuer à valoriser vos efforts envers l'inclusion des femmes au niveau national, provincial et communautaire.
Notons que cette prise en charge holistique de cette catégorie de bénéficiaires est prévue dans la stratégie nationale du PDDRS.
L'artiste musicien Innocent Baloumé, connu sous le sobriquet d'Innos B, vient d'être accueilli par le PAM, Programme alimentaire mondial des Nations Unies, en tant que soutien de haut niveau pour la promotion des repas sains et d'une meilleure nutrition en République démocratique du Congo. Dans son communiqué du 26 mars, le PAM souligne que cette collaboration intervient à un moment crucial où le pays est confronté à une forte insécurité alimentaire et à la malnutrition. Gisèle Cage.
Grâce à ce partenariat, le PAM entend tirer parti de l'influence d'Innos B auprès des jeunes pour les sensibiliser à l'importance d'une alimentation saine, des repas scolaires et des stratégies de lutte contre la malnutrition dans le pays. Depuis notre première rencontre il y a 14 ans à Goma, je suis très fier de voir tout ce qu'il a accompli en tant qu'artiste et humanitaire. Je suis ravi de l'accueillir dans l'équipe du PAM. Avec Innos B à bord, nous pouvons avoir un impact réel dans la lutte contre la faim et la malnutrition en RDC, a déclaré la directrice exécutive du PAM, Cindy McKen. Alors que le PAM poursuit ses efforts pour améliorer la sécurité alimentaire, la collaboration avec Innos B ajoute une voix vibrante et influente à la campagne, ajoute le PAM dans son communiqué. Cependant, l'organisation insiste sur le besoin permanent de financement confronté à un déficit budgétaire de 548,5 millions de dollars au cours de 6 prochains mois pour répondre aux demandes humanitaires constantes dans le pays.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le magazine des Nations Unies reçoit dans ce premier entretien Sylvie Kayomobaye. Elle est conseillère sur les questions administratives et financières au sein du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Elle parle du renforcement des capacités des femmes cadres de cette structure sur la prise en charge de la dimension genre. Sylvie Kayomobaye s'entretient avec Jeff Opela.
Sylvie Kayomobaye, bonjour. mois de mars consacré à la femme. Quelle est la particularité de cet atelier de renforcement des capacités des femmes au sein du PDDRS?
La raison fondamentale qui est à l'origine de notre rencontre de ce jour est de contribuer effectivement au renforcement de la participation pleine et égale des femmes et l'intégration du genre dans les initiatives du PDDRCS. Oui, et cela à travers une bonne compréhension de la résolution 1325.
Est-ce dans l'ensemble de la coordination du PDDRCS, vous pouvez affirmer aujourd'hui le respect du genre? Est-ce la femme du PDDRS apporte déjà sa pierre à la recherche de la paix dans l'ensemble du territoire national?
Je veux dire ici, comme je crois que vous l'avez constaté dans la salle ce matin, la représentation de la femme au sein du PDDRCS est vraiment effective. Au niveau de prise de décision, vous le constatez, moi-même je suis là. Au niveau provincial, il y a eu une participation massive de femmes dans les actions au niveau provincial. Donc les opérations aussi, les femmes participent dans le cadre du travail donc de l'administration. Nous avons des femmes, d'ailleurs au niveau de la province du Sud Kivu. C'est une femme qui est à la tête de la coordination provinciale. Et au niveau territorial, il y a assez de représentation. Donc je veux dire ici que le PDDRCS a tenu à prendre en compte, l'effectivité de ce qui rend le chef de l'État effectivement promoteur et champion de la masculinité positive. Donc cela a été respecté au sein de notre structure. Et surtout que lui étant le président du comité de pilotage, nous avons voulu effectivement l'accompagner dans cette lutte de pouvoir accélérer la promotion de la femme au sein de notre structure.
Alors, toutes ces femmes qui vivent les atrocités dans l'est de la RDC, dont vous prenez aujourd'hui la restauration de la paix, que celles-ci soient en leur faveur et qu'elles retrouvent la quiétude dans l'exercice de leurs différentes activités, quel est le message particulier que vous pouvez leur adresser aujourd'hui?
Nous avons dans notre stratégie au sein du PDDRCS 5 piliers. Et parmi les 5 piliers, je vais citer ici la résolution de conflits et la cohésion sociale. Donc du coup, je m'en vais saluer ces braves femmes de l'Est, surtout de notre territoire national, qui ont vécu des atrocités. Nous leur disons que nous sommes ensemble avec elles et que nous continuons. Même si nous sommes dans la capitale où il y a les institutions, toutes les institutions, nous luttons. Nous luttons ensemble aussi, évidemment, avec les hommes qui nous accompagnent pour pouvoir effectivement réduire de toutes les manières possibles par rapport aux stratégies que nous avons mises en place ces atrocités. Donc ici déjà, le travail de PDDRCS sur le terrain, parce que vous savez, notre champ d'action, c'est plutôt sur les terrains. Nous avons des actions de sensibilisation pour dire aux femmes qui sont actrices et les femmes qui sont victimes de cela, d'arrêter, de se joindre à nous dans la communauté, de vivre leur vie normalement. C'est ça la grande lutte que nous avons.
Un message en langue locale par rapport à toutes ces femmes qui vont vous suivre?
Mina penda se maivu, ma mama bote. Bede manapatikana na magumu ya ubakaji, wala magumu yoyote, tuku pamoja na nini, wajuu atubaache. Jana tulitumika pamoja, tulikuwa napigana kuma province yote, kuma territoire yote, nilikuwa ndani ya ile vita, tulikuwa nasaidia ba mama njuu barudie ndani ya ma community zabo, ma nyumba zabo. Mais leo tunakuwa yulu, njuu ya kusaidia kweli ba mama, na tufanye namuna yote tupate ma decision yenye itasaidia ba mama njuu ivita iishe. Ba mama bakuwe na kimya ndani yao, barudie mukazi yabo ya mashamba, ya kulima, ya kuzisha. Manake ba mama bakuwe kabisa ndani ya ra namuna ya kutafuta amani.
Sylvie Kayomobayo, je rappelle que vous êtes conseillère en questions administratives et financières au sein du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Merci.
Merci beaucoup.
Un
Deux années de conflits cycliques dans les territoires de Rutshuru et de Masisi au Nord Kivu ont forcé plus d'1,3 million de personnes à fuir leur maison en RDC. C'est le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui a tiré cette sonnette d'alarme mardi dernier. L'agence demande une action immédiate face au risque accru pour ces déplacés. Ces chiffres conduisent à un total de 5,7 millions de personnes déplacées à l'intérieur des provinces du Nord et du Sud Kivu, ainsi que de l'Ituri. C'est le porte-parole du HCR, Mathieu Saltzmarsch, qui les a communiqués. C'était lors d'un point de presse mardi à Genève. Des déplacés justement, la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, les a accueillis en grand nombre. Conséquence, une pénurie et une hausse de prix des denrées alimentaires s'observent sur les marchés de Goma. De nombreux biens sont aujourd'hui hors de portée pour de nombreuses personnes. Et en réponse, le PAM a considérablement élargi ses opérations d'urgence dans l'Est, triplant le nombre des bénéficiaires d'aide alimentaire. Ces chiffres sont passés d'une moyenne de 400 000 personnes en mai 2023 à une moyenne de 1,3 million de personnes aujourd'hui. Toutefois, l'Agence alimentaire de l'ONU dit ne pas disposer de fonds nécessaires pour poursuivre cette intervention d'urgence.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invité, c'est le docteur Steven Laurier. Il est directeur de l'éradication de la polio chez UNICEF à New York et aussi est représentant du comité stratégique de l'Initiative mondiale d'éradication de la polio. Il était à la tête d'une forte délégation venue de New York pour le Maniema afin de palper du doigt le progrès réalisé l'année dernière dans la lutte contre cette maladie. Le Maniema est passé de 67 à 1 cas de polio recensé en 2023. Docteur Steven Laurier s'entretient avec Laurence Kizalunga.
Monsieur Steve, bonjour.
Bonjour.
Vous constituez une forte délégation venue de New York jusqu'ici à Kindu. Pourquoi avoir choisi le Maniema parmi les provinces à visiter?
Parce que la Maniema, c'était la phare rouge dans l'éradication de polio. On avait 67 cas en 2022 de poliomyélite à Maniema. C'était la province avec le plus de cas au monde. Et on voudrait vraiment se rassurer que tout est sur la bonne voie pour éradiquer la polio de Maniema et arrêter cette épidémie à Maniema et en RDC. En large.
Durant votre séjour ici au Maniema, qu'est-ce que vous avez constaté et quelles sont les mesures prises pour éradiquer la maladie à poliomyélite?
Alors j'ai constaté quand même un engagement très fort des autorités, mais aussi de la société civile, des vaccinateurs, des relais communautaires, des gens qui travaillent dans le système de santé pour la campagne qui vient. Il y a une campagne qui vient la fin de cette semaine, qui commence le 28, une campagne sur tout le territoire, pas seulement de Maniema, mais tout le territoire d'RDC, pour vacciner tous les enfants. Et je vois qu'il y a un engagement. Maintenant, bien sûr, il y a toujours des écarts et à gauche et à droite, mais quand même, je vois que le Maniema est plus ou moins prêt pour vacciner ses enfants. Ce que moi, mon message clé ici, c'est que si tous les maires peuvent faire vacciner leurs enfants pendant ces journées de vaccination, on irait vraiment un pas en avant vers l'éradication de la poliomyélite ici dans le pays, mais en particulier le Maniema.
Monsieur Steve, quel a été le degré de collaboration avec la population dans cette lutte?
La collaboration avec la population est un point clé. Sans la population, on ne peut pas vacciner. Mais c'est important parce que la poliomyélite, il n'y a pas de médicaments quand on attrape la maladie. On peut seulement prévenir et la seule prévention qu'on a à ce moment-ci, c'est le vaccin. Alors, si moi je suis une maman ou je suis un père, bien sûr, je vais vacciner mes enfants parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour se protéger contre cette maladie et on doit vraiment mettre cette maladie hors de ce monde le plus vite possible parce que on peut le faire.
Maintenant qu'on parle de la baisse très sensible des cas de polio au Maniema, est-ce qu'on peut envisager l'éradication de cette épidémie dans les jours à venir?
Je pense bien, oui. Mais ça va demander quand même un effort considérable de continuer à vacciner tous les enfants pour que l'immunité des enfants contre cette maladie est vraiment atteinte et que tous les enfants soient vaccinés.
Bien sûr que vous êtes directeur d'éradication des polio et représentant du comité stratégique de l'initiative mondiale d'éradication des polio. Est-ce que l'UNICEF avec tous ses partenaires continueront toujours à apporter leur appui aux activités de lutte contre la poliomyélite dans le pays et plus particulièrement dans la province d'Imanima?
Bien sûr, avec l'OMS, avec le CDC, avec le Gates Foundation, avec la Rotary, avec la Gavi, avec l'UNICEF et avec le gouvernement et la société civile, on va tous se battre pour éradiquer la polio jusqu'on y arrive.
Vous avez été chez les gouverneurs à l'Assemblée provinciale d'Imanima et vous avez eu des rencontres avec les organisations de la société civile. Partout là, dans votre adresse, vous avez plaidé pour la stabilité des personnels soignants. Pourquoi?
Parce qu'avec une stabilité, on peut continuer à aller en avant vers l'éradication.
Au pied de l'avion déjà, pour votre retour, vous avez été accueilli par les autorités provinciales. Qu'est-ce que vous leur dites?
Je les remercie pour l'accueil qu'on a vu ici, qu'on a vraiment senti ici, un accueil fabuleux et tous les efforts qu'ils font pour l'éradication de la poliomyélite, pas seulement de la province, pas seulement du pays, mais éradication aussi mondialement. L'RDC joue un très très grand rôle.
Monsieur Steve, merci.
Merci.
Dans la ville de Beni au nord Kivu, les forces de la MONUSCO multiplient depuis 2 semaines des patrouilles de domination et de sécurisation des populations. C'est l'une des réponses à la menace de rebelles des ADF de plus en plus présents dans la ville. Bien que cette mesure soit saluée par les habitants, ces derniers recommandent que ces patrouilles soient mixtes et s'effectuent conjointement avec des éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Autre précision avec Marc Marofimbo.
Ici, nous sommes sur l'axe Boykene Mzambaï. Ce mardi soir et comme chaque nuit, des casques bleus indiens de la MONUSCO effectuent une patrouille de sécurisation des populations. Il est presque 21h30 heure locale. Nous rencontrons quelques rares habitants qui rentrent chez eux. Nous échangeons quelques minutes avec eux. Ils saluent cette mesure qui les rassure, surtout en ce moment où la psychose née de la présence des rebelles des IDF dans la ville gagne la ville. Cependant, ces habitants souhaitent que la MONUSCO associe les forces de défense et de sécurité à ces patrouilles. Wezo Kambale Tahuana, habitant de Mzambaï.
Je suis très content. Ça, c'est une force. Nous voulons que le retour de la paix chez nous. Que les gens d'Ngongolio et d'ailleurs ne se déplacent pas, qu'ils ne fuient pas aussi. La MONUSCO doit nous aider. Nous savons que la MONUSCO dispose des drones. Mais on ne sait pas pourquoi elle n'utilise pas ces drones pour repérer les positions de l'ennemi. Voilà pourquoi la population peut soupçonner de sa complicité. Raison pour laquelle nous voulons que ces tueries cessent. Dans la périphérie de la ville, il y a encore beaucoup de soucis sécuritaires. Pour que ces patrouilles soient productives, il faut que la MONUSCO travaille avec les forces de la police et des FARDC.
Signalons que d'autres patrouilles se font également au-delà de la ville, dans le territoire de Beni, avec cette fois des éléments de la brigade d'intervention de la MONUSCO, FIB, toujours dans le but d'atténuer, voire d'anéantir les menaces sécuritaires dans la région. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Et ces 3 dates à retenir dans vos agendas pour la semaine qui commence. Le 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Le 4 avril, la journée internationale pour la sensibilisation aux mines et l'assistance à la lutte anti-mine. Et la journée internationale de la conscience intervient le 5 avril. Ainsi se termine cette émission à réécouter à tout moment sur www.radiokapi.net. Au micro, Babel Pongo Massimango, Jean-Noël Mokondo à la technique avec Jeff Opela à la production, coordination et réalisation. Merci à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro. Excellente suite de programme, la fréquence de la paix.